Loire Mag, le podcast. Chaque mois, RCF, en partenariat avec le département, vous propose de partir à la découverte des femmes et des hommes qui font vivre notre territoire ligérien.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Loire Mag, le podcast. Ce mois de novembre est consacré à la découverte du numérique dans la Loire, un département assez novateur, vous allez le découvrir. Entretien d'abord avec Séverine Reynaud, vice-présidente en charge du numérique et des systèmes d'information, pour connaître la démarche des élus sur ce sujet. Bonjour Séverine Reynaud.
Bonjour.
Vous êtes élue en charge du numérique et des systèmes d'information au département de la Loire. On va parler du numérique dans la Loire et je crois que c'est un sujet assez dense.
Oh oui, c'est un sujet très très dense et on a un territoire très très dynamique sur ce sujet-là.
Alors d'abord, il y a une feuille de route politique du numérique au niveau du département. Ça
oui.
S'appelle Loire Connect, je crois.
Tout à fait, c'est une politique interne au département qui est une feuille de route transversale à tous les pôles du département, qui a 5 axes et qui permet de lancer des projets comme par exemple, pour donner un exemple, si je dois en donner qu'un, c'est par exemple la plateforme de stage pour les collégiens qui est lancée sur cette feuille de route et qui réintègre le pôle éducation à terme pour continuer à l'exploiter.
C'est en gros pour que tout le monde ait accès au numérique, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Ou en tout cas, c'est pour numériser plus le département ?
Alors oui, alors ce dont je peux vous parler, qui est peut-être encore plus parlant pour les habitants et les collectivités, hein, c'est le schéma directeur départemental, le schéma directeur territorial d'aménagement numérique.
Le SDAN donc.
Le SDAN, voilà, qui est une feuille de route du territoire où le département est chef de file, ce qui ne veut pas dire que le département fait tout en matière de numérique, loin s'en faut, il est acteur dans ses propres compétences, mais il est surtout un animateur du territoire pour toutes les forces vives du territoire en matière de numérique. Et donc dans ce schéma, il y a 3 volets. Il y a, donc ce schéma a été révisé et voté jeudi dernier en Assemblée départementale, et il sera présenté à l'ensemble du territoire, donc les collectivités, les EPCI, le 1er décembre à Feur. Donc s'il y a des maires, des adjoints qui nous écoutent, je les invite vraiment à venir parce que c'est intéressant. C'est la feuille de route pour les 3 ans à venir. Ça concerne bien sûr le volet infrastructure. Alors infrastructure, c'est la fibre, c'est les radio-télécommunications, le réseau ROC 42 bas débit. C'est les services et usages, c'est-à-dire une fois qu'on a les infrastructures, qu'est-ce qu'on fait avec ? C'est les territoires connectés, par exemple. Et puis, c'est la médiation, à savoir, on laisse personne sur le bord de la route. C'est nos 45 conseillers numériques, c'est les écrivains numériques et c'est le schéma de médiation que l'on va mettre en place fort de ces 45 conseillers à l'échelle du département.
Si on regarde les infrastructures, justement, la fibre, on en est où dans le département de son déploiement ?
Alors, déjà, moi je me plais à le rappeler, on est le premier département de France le plus fibré. Donc il y a plusieurs zones qui sont régies différemment sur la Loire. Il y a la zone qu'on appelle la zone RIP, encore un acronyme. Donc c'est un réseau d'initiatives publiques, puisqu'en 2005, la Loire a commencé à se fibrer par l'impulsion politique du département. Notre président Georges Ziegler était à l'origine de ce déploiement pour les zones d'activité, c'est-à-dire pour les professionnels, les entreprises. Et sur ce réseau, l'État en 2012 a décidé de confier aux grands opérateurs que sont Orange, SFR, le déploiement dans les zones denses et très denses. Mais bien sûr, il n'était pas question des zones rurales. Et dans la Loire, on a fait le choix de développer ce qu'on appelle le RIP 2, le réseau d'initiative publique numéro 2. Donc c'est le ciel qui en est le délégant, avec THD 42 exploitation qui l'exploite, sur la zone THD 42, et de fibrer toute la zone rurale pour que personne ne soit pas fibré dans la Loire. Et ça, ce déploiement-là, RIP, a été terminé en mars 2020. Pour les autres zones, c'est la zone Saint-Étienne Métropole, Roanne et 6 communes autour, dans ces zones très denses. C'est Orange qui déploie. Ils sont, par rapport au niveau national, bien placé en termes de déploiement, mais avec les RIP à l'intérieur, ben on est le premier département de France le plus fibré.
Trois volets, vous le disiez, on a parlé du volet infrastructure, hein, notamment avec la fibre, c'est vrai. Vous parliez d'un volet usage avec un territoire connecté. Qu'est-ce que c'est un territoire connecté, Séverine Reynaud ?
Alors, un territoire connecté, vous savez qu'on parle beaucoup de transition écologique, transition environnementale, de la gestion de l'énergie à la dimension des bâtiments. Donc, un territoire connecté, par exemple, c'est une commune, qu'elle soit petite ou grande d'ailleurs, et qui veut interconnecter ses bâtiments, s'équiper d'objets connectés pour gérer son énergie, ses fluides, c'est-à-dire l'eau par exemple. Elle peut gérer aussi les déchets, elle peut gérer sa vidéoprotection. C'est quelque chose qui nous a amené à répondre au PIA 4. Alors, c'est le plan investissement à venir de l'État, qui c'est un appel à projet, en fait, qui est lancé à l'échelle nationale sur les territoires connectés et durables.
Quand on pense numérique comme ça, etc., est-ce qu'on pense aussi au risque que ça engendre de passer au tout numérique, c'est-à-dire par exemple ceux qui n'ont pas d'ordinateur, par exemple, même si c'est de plus en plus rare, ou même ça arrive encore évidemment, et des attaques aussi qu'elles peuvent être sur des objets connectés notamment, etc. On a des exemples. Est-ce qu'on prend en compte tout ça aussi, la sécurité finalement des usagers derrière?
Alors, il y a deux sujets. Dans votre question, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la médiation, c'est-à-dire comment on accompagne le particulier. Alors, le département en propre a des écrivains numériques qui assistent les assistantes sociales, si je peux me permettre. Donc, ils vont aider les gens qui ne peuvent pas faire. Parce qu'il y a aussi cette population-là qui ne viendra jamais à ces objets, qui ne se servira pas d'une tablette, qui ne peuvent pas le faire. Donc là, il faut faire pour eux. Ça, c'est le rôle des écrivains numériques. Il y en a 6 au département, donc qui s'occupent de nos publics en solidarité humaine. Ensuite, il y a les écrivains numériques, c'est-à-dire c'est tous les ateliers, et dans la Loire, on est aussi bien lotis, puisqu'on a 109 points quand même à l'échelle du département de lieux de médiation. Ça peut être des médiathèques, c'est des espaces publics numériques, des centres sociaux, et là on va y dispenser des ateliers pour aider les gens à se familiariser avec l'outil, à faire tout seul, à devenir autonome. Mais ça va aussi plus loin, la médiation, c'est comment on amène par exemple nos collégiens à l'expertise. Parce que eux, c'est quelque chose qu'ils utilisent en jouant, mais ils ne savent pas forcément utiliser pour autre chose. Et aujourd'hui, il faudra faire toutes leurs déclarations en ligne, postuler en ligne. Donc, c'est comment on amène aussi nos collégiens, puis c'est une compétence du département, les collèges, à l'expertise sur le territoire. Et puis, la deuxième partie de votre question, c'est comment on protège, effectivement, plus on est connecté, plus on a de risques d'être cyberattaqué. On va l'appeler comme ça. Alors, il y a plusieurs formes d'attaque. Et donc, il y a deux actions que l'on mène, puisqu'il y a deux volets dans la cybersécurité. Il y a le volet humain, j'ai envie de dire, c'est-à-dire comment on explique à nos publics et aux habitants de la Loire comment éviter de tomber dans le mauvais mail, de ne pas répondre aux SMS et de surtout pas donner ses identifiants bancaires, etc. Donc ça, c'est une partie plutôt d'acculturation, de médiation, ça rejoint le volet médiation. Et puis, il y a la partie protection au niveau des collectivités, c'est-à-dire les collectivités aujourd'hui ne sont pas protégées de ces attaques-là. Et on a lancé une expérimentation à l'échelle du département sur 30 communes, donc le département finance, avec la société Serenicity qui est ligérienne, et qui a un super produit qui s'appelle le Detoxio, qui est très simple, parce qu'il faut aussi que ce soit assez simple pour qu'on comprenne tous les enjeux. Et donc c'est de la cybermétéo, c'est-à-dire que si vous avez sur votre... Ça se place en amont des systèmes d'information, et lorsqu'il y a une IP toxique et qui essaye de rentrer, donc une attaque en fait, elle est bloquée. Ou on identifie qu'il y a une IP louche, et on se doute que si elle est identifiée comme toxique, elle va être cataloguée dans un catalogue national avec l'ANSSI, etc. La gendarmerie aussi, comme toxique, est bloqué bien sûr sur tous les réseaux. Cette expérimentation, en parallèle, on a monté un observatoire des attaques que subissent les collectivités qui font partie de cette expérimentation pour répondre au mieux aux besoins. À l'issue, On a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, où on a été lauréat. Et donc, ils vont nous financer, subventionner. Et ça va nous permettre, à l'issue de cette expérimentation, de le déployer sur l'ensemble des communes ligériennes pendant 3 ans.
Donc là, on va avoir effectivement un peu plus de sécurité au niveau des communes ligériennes, quoi.
Voilà, qu'elle soit petite ou grande, parce qu'une grande commune, on a des communes importantes dans l'expérimentation qui pensaient être protégées avec des firewalls. Ça ne suffit pas un firewall aujourd'hui. Et plein d'autres systèmes, bien sûr, de sécurité. Et elles se sont rendues compte qu'elles avaient des failles. Et sur une commune, par exemple, une chose qui se vole beaucoup et vous en rendez pas compte si vous ne pouvez pas le voir, c'est l'état civil. Ça se revend sur le Darknet. Et le Darknet, vous pouvez avoir des administrés qui se retrouvent avec des doubles, triples identités. Voilà.
Effectivement.
C'est pas neutre. Hein.
Non, effectivement. Et c'est bien de penser aux problématiques, effectivement, futures et actuelles, hein, celles qui arrivent déjà, celles qui vont arriver. Moi, quand on reprend le volet médiation, effectivement, on a des écrivains numériques, on a des conseillers numériques, des écrivains numériques qui vont presque faire les démarches à notre place. J'exagère un petit peu, mais c'est en gros,
c'est ça. Sur les publics fragiles, oui.
Exactement. Est-ce qu'on réfléchit aussi à ceux qui, finalement, ne rentrent pas dans les cases? Comme on dit, le numérique, c'est très binaire, vous savez. Soit on rentre dans une case, soit on n'y rentre pas. Et avant, quand on écrivait à la main, ma foi, c'était l'agent qui mettait un post-it et puis ça passait à l'agent d'après. Est-ce que là, on réfléchit aussi au niveau du département à ce genre de problématique?
Alors oui, je vais vous répondre parce que en fait, le numérique, même si moi je suis passionnée par ce sujet-là, il faut jamais perdre de vue que ça doit être un outil au service de l'homme. Et l'homme, il rentre jamais dans des cases en réalité. Jamais. Donc on essaye de faire des groupes, des cases le plus qu'on peut. Mais toutes les innovations qu'on va devoir créer, il ne faut pas qu'on se déroute du but. Et le but, c'est de servir l'homme. Et c'est de l'accompagner. Quand je parlais de l'autonomie, par exemple, c'est comment on prévient la chute pour une personne âgée, comment on se rend compte que ce matin-là, il ne s'est pas levé ou elle ne s'est pas levée. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui vont permettre d'aider l'humain sans forcément qu'il ait un handicap, que ce soit compliqué pour lui, voilà, de l'appréhender. Donc oui, on réfléchit toujours en partant, et quand j'interviens pas mal au niveau national, parce qu'on est quand même bien en avance dans la Loire, et chaque fois je le rappelle, et notamment aux entreprises, aux industriels, n'oublions pas que l'innovation, elle doit partir de l'usager. Toujours de l'usager, sinon elle ne sert à rien l'innovation.
Loire Mag, visage de la Loire.
Après la théorie, la pratique maintenant. Rendez-vous sur le terrain avec Sarah Macardier, conseillère numérique en commune rurale. Bonjour Sarah Macardier.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici un peu chez vous. Alors on n'est pas tout à fait dans vos locaux, on est juste en dessous je crois.
Hein. Oui, on est dans l'espace du pôle jeune de l'association Famille Rurale pour laquelle je travaille aussi.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un pôle que vous connaissez bien parce qu'avant d'être conseillère numérique, vous passiez plus de temps ici.
Oui, c'est ça. J'étais animatrice pour les ados et puis directrice de l'accueil de loisirs pour les enfants, donc sur cette même association.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier de conseillère numérique?
Je me suis dit que c'était une nécessité actuellement pour une grosse partie de la population qui sont vraiment quand même en difficulté avec ce genre de domaine. Et il y a un côté très social que j'apprécie beaucoup. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer de lancer ça sur les communes du territoire.
Parce qu'effectivement, on est dans un environnement un peu plus rural. Vous diriez que c'est plus compliqué sur les gens qui nous entourent ici. Alors ici, on est à Saint-Christo-en-Jarret, mais même sur les communes environnantes, vous diriez que c'est plus difficile, que les gens savent moins faire peut-être que ceux de la ville, ou c'est un cliché voilà, dites-nous.
Ils ne savent pas forcément moins faire, c'est juste que les entités de soutien ou les administrations ne sont pas localement disponibles. Ils ne sont pas forcément plus à l'écart, même si on a des soucis à certains endroits de nos territoires de couverture, tout bêtement, de réseau Internet. Donc ça, forcément, ça joue. Mais de façon générale, c'était plus pour donner un accès de proximité aux gens, plus qu'une question de compétences, parce que qu'on soit en ville ou à la campagne, si on ne sait pas faire, on ne sait pas faire.
Alors justement, rentrons dans le cœur de votre métier. Tous les jours, quelles sont vos missions ?
L'idée, c'est de pouvoir accompagner les gens alors sur des rendez-vous privés. Donc, ils m'appellent pour des pour des sujets très précis sur lesquels on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein de compétences qui entrent en jeu et sur lesquelles ils ne sont pas forcément à l'aise. Donc, soit un rendez-vous privé pour essayer de les guider, leur donner des billes pour apprendre plus facilement à se débrouiller au quotidien, ou alors aussi un rendez-vous collectif avec des domaines qui pourraient plaire à plus de personnes. Et du coup, on fait des ateliers groupés de 8-10 personnes.
Alors, on reviendra sur ces ateliers groupés. Commençons par l'individuel. Comment on fait pour déjà se faire connaître du public et que les gens savent que ça existe, ça ?
On fonctionne pas mal avec les outils de communication des communes, donc à savoir que j'interviens sur 4 communes différentes, donc Saint-Christophe, Fontanet, Val-Fleury et Marcenau, qui sont des communes limitrophes. On utilise les outils de communication standard, au départ les affiches, les flyers, parce que si on veut toucher des personnes qui sont un petit peu à l'écart du numérique, on ne peut pas rester que sur du réseau social ou sur du mail. Voilà. Et on utilise aussi beaucoup le tissu associatif des communes, puisque ça permet d'avoir un adhérent qui soit plus facilement touché par ce biais-là. Et bien sûr, après, on utilise quand même beaucoup les réseaux numériques, sociaux, et puis des applications comme Iliwap, par exemple, qui fonctionnent très bien.
Alors, une fois qu'on s'est fait connaître, l'important, c'est de dire aux gens, venez un peu, si vous avez un problème, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on leur dit aux gens sur le support de communication qu'on a choisi ?
L'important, c'est surtout de leur montrer que ça peut concerner n'importe qui, qu'on ait 12 ans ou qu'on en ait 90, c'est pas gênant. C'est aussi de leur expliquer que c'est confidentiel. Il y a un côté aussi service public qui est très important, c'est à savoir que c'est un service qui est gratuit pour les habitants. Il faut surtout leur expliquer que c'est pas grave et qu'il n'y a pas de notion de honte à avoir et qu'à n'importe quel moment dans leur vie, ils peuvent avoir besoin d'un coup de pouce au quotidien.
Et ce coup de pouce, justement, il porte sur quoi ? Pourquoi on vient vous voir, Sarah Macardier ?
Principalement, quand même, une demande sur deux, ça reste pour la notion de démarche administrative en ligne, parce que maintenant, tout est quasiment dématérialisé, donc c'est compliqué de pouvoir se gérer seul si on a du mal avec cet outil-là. On me demande aussi beaucoup de l'aide sur l'apprentissage de base des outils, le téléphone et l'ordinateur en premier. La tablette, un peu moins, c'est pas quelque chose qui est encore très demandé. Peut-être que plus tard, quand les gens seront plus à l'aise avec ces deux premiers outils-là, ils m'interpelleront là-dessus. Et puis la dernière option, ça va être aussi sur tout ce qui va être du côté plus loisir et ludique. Par exemple, accompagner une personne pour apprendre à réaliser un livre photo, par exemple, à offrir. Mais en fait, avant de créer ce livre photo, il faut d'abord déjà savoir connecter son téléphone, récupérer ses photos, les trier, etc. Et rien que ça demande en général une bonne séance de travail.
Oui, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a effectivement de tout. Ça vous nécessite à vous aussi des compétences et de savoir être formé là-dessus aussi ?
Oui, en fait, c'est de l'auto-formation en permanence parce que du coup, c'est un domaine qui évolue tout le temps. On a beau essayer de travailler sur un site internet ou une plateforme, si celle-ci évolue, on est obligé de se réadapter. Donc ça, c'est pas forcément évident. Ça me demande de l'auto-formation permanente et puis surtout, je fais beaucoup de recherches selon les demandes des gens. Et puis des fois, je leur dis que j'ai pas la solution en direct là, mais qu'on va aller chercher la solution ensemble sur internet en se documentant. Donc ça arrive aussi.
C'est un moyen aussi de montrer qu'on peut effectivement presque tout apprendre également sur Internet, justement, en sachant un petit peu s'en servir.
C'est ça, en fait, le but, c'est de leur donner des premières bases pour qu'ils arrivent à comprendre le vocabulaire qui existe, et qu'ils arrivent à comprendre qu'un système de compte en ligne, ça va être toujours à peu près le même système, avec des identifiants, des mots de passe, arriver à se repérer avec des icônes qui peuvent ressembler à des choses de la vie quotidienne pour qu'ils puissent naviguer et être un petit peu plus en confiance.
Vous l'avez dit, c'est ouvert de tout le monde, de 12 à 99 ans, comme on dit souvent, mais est-ce que dans les faits, tout le monde vient vous voir ?
Alors, si je parle statistique, j'ai la moitié de ma fréquentation qui va être utilisée par des personnes retraitées ou tout jeune retraité, donc c'est à partir de 60 ans. La deuxième catégorie qui viennent beaucoup, c'est les personnes encore actives, donc les 35-55 ans. Et j'ai aussi la chance de pouvoir travailler assez régulièrement avec des publics plus jeunes, de fait de mon lien avec l'association, qui a un espace jeune et un centre de loisirs sur lequel, du coup, je propose des petits ateliers d'initiation, de découverte, Voilà, ça me permet d'avoir un pied toujours dans l'animation avec ces publics jeunes. Et ça permet aussi qu'eux en parlent à leur famille et ça crée du coup du lien avec les besoins des parents ou des grands-parents. Et j'ai comme ça des personnes qui viennent me voir après pour des questions de parentalité numérique ou qui viennent me voir parce qu'eux-mêmes sont aidants de leurs parents, par exemple, qui sont plus âgés. Et du coup, d'arriver à faire du lien avec ces gens-là.
Parce qu'on a tendance à se dire que les jeunes savent faire, vous me dites non, de la tête, Sarah Macardier.
Non, ils savent faire avec un téléphone des choses basiques du quotidien. Du moment qu'ils sont devant un ordinateur, c'est complètement différent parce que c'est un langage différent, c'est un outil qu'on n'utilise pas de la même manière. En classe, ils ne l'utilisent pas pour faire les mêmes choses de la vie courante. Et du coup, ils ne sont pas forcément plus à l'aise que ça. Ils ont des demandes qui vont être très précises, notamment sur les rédactions de CV ou la recherche de job ou la recherche de stage. Donc voilà, on va être plutôt là-dessus. Et puis, c'est aussi les informer sur leurs droits sociaux. En fait, quand on commence à être dans la vie active, 17-18 ans, comment est-ce qu'on fait ce lien-là avec eux ?
Alors justement, vous avez dit que vous intervenez auprès des jeunes, souvent en groupe. Ça nous ramène sur le fait que vous animez quelquefois aussi des ateliers de groupe, là sur des thématiques précises pour le coup.
Oui, tout à fait. En fait, j'essaye de proposer des programmes qui peuvent correspondre à ce que les gens me confesse en fait dans des rendez-vous privés. Et du coup, au lieu de prendre 7 rendez-vous différents pour combler une semaine entière, eh ben, je propose des ateliers qui peuvent être communs à plusieurs personnes. Là, en l'occurrence, on a démarré l'année septembre-octobre avec des ateliers tranquillement sur les bases de l'ordinateur pour que les gens puissent suivre une espèce de cursus évolutif.
Ça nécessite aussi beaucoup de patience, l'apprentissage aux gens qui ne savent pas faire.
Oui, c'est de la pédagogie. J'ai la chance d'en avoir un petit peu, je crois, au niveau du travail. C'est pas forcément évident. On peut avoir des fois des personnes qui sont très obtus ou fermées ou un peu sur la crainte et tout. Et du coup, ça peut être parfois difficile. Mais de façon générale, avec la petite expérience que j'ai, du coup, de la gestion de personnes depuis un an et demi dans ce contexte-là, je suis jamais tombée sur des gens avec qui ça se passait mal, parce que quand ils viennent, déjà, ils poussent la porte, c'est qu'ils ont un besoin de soutien, et du coup, ils sont forcément un peu plus ouverts.
Ouais, ils ont l'envie aussi d'apprendre.
Oui, tout à fait. Et c'est la différence aussi avec certains milieux administratifs où ils étaient accueillis par des guichetiers qui, en fait, devaient répondre à des questions techniques qui pouvaient être pénible pour eux, pour les usagers. Mais en fait, moi, s'ils viennent me voir, c'est d'abord pour apprendre à se débrouiller. Donc, ils ont envie d'être là et ça change forcément la donne.
Et bien, on arrive à la fin de notre entretien. Merci beaucoup, Sarah Macardier, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Loire Mag, le podcast sur RCF. Des témoignages et des rencontres avec des Ligériens pour entrer au cœur des missions du département.